Bonsoir, chacune, chacun. Donc, on commence un nouveau thème dans ce mois d'avril qui est la vie de disciple. C'est quoi être un disciple? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et est-ce que je peux demander à Erika puis à Abigail de venir devant? Allez, génial. Vous êtes courageuses, c'est très bien. Ils ne savent pas tout à fait ce qui va leur tomber dessus. Non, c'est pas tout. Non, non, ça va être tout simple et pas compliqué. Donc le thème ce soir, la vie de disciple. Qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui prie. Et je trouve qu'il y a deux disciples là à côté de moi. D'accord. Je vais leur poser quelques questions et puis juste pour savoir un petit peu pour elles ce que ça veut dire la prière. Est-ce que tu sais, Erika, par exemple, ce qui se passe à 19h tous les jeudis?
Oui, à 19h sous le temple, il y a la prière chaque jeudi. Du coup, voilà.
Et toi, Abigail, est-ce que tu sais ce qu'il y a tous les jeudis à 19h?
La prière.
C'est la même question, même réponse. Bravo, bravo. Et puis, moi, je te vois régulièrement à la prière avec ta grande sœur et des fois la famille. Le jeudi soir, tu viens. Est-ce que tu aimes venir dans cette réunion de prière?
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui te plaît, que tu aimes bien? Tu réfléchis, puis on écoute Erika. C'est quelque chose de spécial que tu aimes bien dans cette heure de prière.
De prier entre frères et sœurs, parce que là on est plusieurs, bah Dieu nous répond.
Prière entre frères et sœurs. Et toi, il y a quelque chose qui te plaît dans cette heure de prière hein, du jeudi?
De venir et de prier.
De prier. Est-ce que quand tu pries, est-ce que ça t'arrive de prier, donc pas seulement le jeudi, mais tu pries, quand tu pries comment? Voilà. Est-ce que tu pries, je veux dire, à haute voix? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu pries dans ton cœur? Comment ça se passe pour toi, la prière?
Haute voix.
À haute voix. D'accord, super. Génial. Et puis, est-ce que tu sais ce qu'on utilise à la fin d'une prière, le mot qui va bien, quand on utilise une prière, quand on fait une prière? On la termine par quoi, une prière? Est-ce que tu sais?
Amen.
Ouais, voilà, Amen. Et puis des fois, avant Amen, on utilise quoi, Erika?
Au nom de Jésus.
Amen. Voilà. Au nom de Jésus, exactement. Au nom de Jésus. Et puis dernière question, est-ce que vous vous rappelez, soit Abigail, soit Erika, d'un exaucement de prière que vous avez eu? Quelque chose que, voilà, vous avez prié, puis il y a quelque chose qui s'est passé, où Dieu a, vous savez que c'est Dieu qui a répondu.
Oui, j'avais prié pour que Dieu m'aide lors d'une épreuve à refaire, à rattraper un samedi. Et j'ai eu 5,5.
Super. Et donc, tu savais que par toi-même, tu n'aurais pas eu 5,5? Non. Et toi, tu te souviens d'un exaucement de prière que tu as eu? Tu sais que Dieu, il a répondu à ta prière comme ça, non? D'accord, ouais. Merci beaucoup, Erika, Abigail, c'est très gentil. À vous. Elles font partie des fidèles de cette rencontre de prière. Il n'y a pas d'âge pour prier. Alors, la plupart du temps, on le sait dans notre tête, on le sait intellectuellement. Donc, tout enfant, tout jeune, on peut apprendre déjà à prier. Et puis, avec les années, ben voilà, notre prière, normalement, elle s'améliore ou elle se, comment dire, elle se, elle, oui, elle s'étoffe, elle prend de la maturité. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, aussi pour le Seigneur. Mais il n'y a pas d'âge, en tout cas, pour prier. Et donc, je voulais vous parler de la prière et du disciple dans Luc 6, 40. Luc 6, 40, ça va être notre verset de base ce soir. Alors, c'est intéressant ce thème de la prière parce que vendredi soir, il y avait une rencontre inter-paroisse et Église libre sur la mission. Et puis, on a pris le temps de prier. Le message, c'était sur la prière. Donc, voilà, c'est un week-end de prière. Luc 6, verset 40, mais avant que je le lise, j'aimerais dire quelque chose, je pense, important qui est sur mon cœur. Les deux derniers dimanches qu'il y a eu, donc c'était sur le thème de la délivrance, en gros, qui a été apporté par Gilles. Et c'est un thème qui est vraiment important, le fait que Jésus soit venu pour qu'on soit délivré de toutes nos chaînes, délivré de voilà, des esprits mauvais qui nous tiendraient encore captifs. C'est un thème très important. Juste vous dire que ce thème, dans certaines églises, ils refusent de l'aborder. Voilà, ils refusent des fois par peur, des fois parce que les églises charismatiques ont fait des excès là-dessus, des fois parce qu'il y a un manque d'enseignement, des fois parce qu'on estime qu'un chrétien ne doit pas avoir d'esprit mauvais, ou en tout cas pas être enchaîné, etc. Pour plusieurs raisons, et puis quelque part, des fois, l'adversaire utilise ça pour tenir captif certains croyants, et ils n'osent pas avouer leurs fautes, leurs chaînes, et voilà, il y a tout un manque de lumière là-dedans. Mais ce que je veux vous dire, c'est important de considérer ce message pour vous-même, bien sûr, mais aussi de le considérer pas comme allant de soi. Toute grâce qui nous a accordé, c'est pas parce qu'elle est gratuite que ça va de soi. Et je pense que ça honore Dieu si, alors que nous écoutons ce message, par exemple, de délivrance, et qu'on vit des délivrances, on puisse le remercier. Dans les 10 lépreux qui ont été guéris, seulement un seul 10% du groupe guéri par Jésus est revenu vers Jésus et il a remercié Dieu. Et les autres, ils ont considéré que la guérison allait de soi. En tout cas, dans le texte, c'est pas mentionné autrement. Donc, mon exhortation, elle est là ce soir aussi pour dire, mais merci Seigneur, on a ce message d'espoir, la délivrance, oui, Jésus guérit encore aujourd'hui et il délivre. Et c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Et c'est pas, Seigneur, voilà, ben, ça va de soi parce qu'on a été délivré dimanche passé, si vous avez eu une délivrance. Mais voilà, c'est un remerciement qui doit revenir au Seigneur, comme un sacrifice de reconnaissance et de louange. On est d'accord, frères et sœurs, avec ça? Ça ne va pas de soi. Dans cette communauté, ça fait 40 ans, je pense en tout cas, pas loin, que le message de la délivrance, il est annoncé. Il y a eu des séminaires tout au long des années. On a vu des gens délivrés et des gens qui étaient vraiment tourmentés et Jésus les a délivrés. Puis des fois, au revoir, merci, voilà, des fois il n'y a même pas un merci. Je pense que ça peut attrister l'Esprit de Dieu, ce genre de choses, parce que, voilà, bon, c'est un bon Père, il va toujours bénir, il va toujours faire du bien, même les non-chrétiens, mais quand même, nous qui sommes matures en Christ, exprimons notre reconnaissance. Et je vous donne la possibilité de le faire, pas maintenant, mais par exemple, le jour où nous allons fêter Pâques, donc dans 2 semaines, dimanche, pourquoi pas un témoignage, ah oui, ben, ces derniers mois où j'ai vécu ça et le Seigneur m'en a sorti, par exemple, et je veux le remercier comme un sacrifice d'action de grâce. J'ai vu une personne qui n'est pas de la communauté cette semaine en entretien pastoral, comme ça. Elle s'est ouverte, une personne que je connais peu. Elle s'est ouverte et puis, sachant que j'étais pasteur, je lui ai proposé la prière pour son besoin. Elle m'a dit, ah voilà, j'ai des douleurs, etc. Je prie pour elle. Et il y a eu un tel merci, quoi, après la prière. Ça m'a fait vraiment du bien à moi, pas seulement d'avoir prié pour elle, mais d'avoir juste remercié en reconnaissance. Et puis voilà, je dis gloire à Dieu pour ces moments-là. Mais voilà, le merci à Dieu, il est important. Merci Seigneur. Ça va pas de soi que Florian fasse la louange avec toute l'équipe de louange. C'est génial, c'est fabuleux. Mais imaginez qu'on soit une église sans bâtiment, sans groupe de louange, sans rien. Voilà, juste la possibilité de se rassembler comme des frères et sœurs, je sais pas, en Ukraine ou ailleurs. Voilà, ça ne va pas de soi, et c'est important. Voilà, on va être reconnaissants et les uns les autres. Merci, je te lis aussi, merci Gilles. Il a passé des heures pour ses messages. Je glorifie Dieu, puis en même temps, merci d'en être son instrument, tout simplement. Amen. Amen. Voilà, soyons reconnaissants. Je ferme ma parenthèse pour sauter sur Luc 6, 40, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Je reprends, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Jésus dit ce verset à ses disciples, il nous le dit à nous aujourd'hui. L'objectif du Père Céleste, de notre Dieu, non seulement que nous soyons des disciples qui suivent Jésus, des disciples bien formés à la prière et à prier comme Jésus a pu le faire. Comme Jésus a pu le faire. Lorsqu'on va aujourd'hui en Israël, ça va vous rappeler des souvenirs, ce qui y était, on voit la prière qui est partout. C'est facile de voir un juif dans le bus ou une femme juive avec son livre de prière qui prie dans le bus comme ça. Personne ne va s'en étonner. Personne va, si vous faites ça dans les TPG, c'est possible qu'on vous prenne un peu pour quelqu'un de bizarre à Genève. Mais là-bas, ça ne détonne pas. Vous prenez la ligne du bus qui va voilà en direction du mont du temple. Et ben voilà, les gens vont prier. La personne qui va au travail, elle ouvre son livre de prière et elle va lire sa prière. Elle va comme ça librement le faire. C'est une évidence quand vous allez au mur des Lamentations. Tous les gens qui sont là pour prier. Soit les prières qui sont faites, écrites déjà, soit des prières de cœur où il y a une supplication qui monte, vous savez, et puis certains juifs vont mettre leurs prières dans les petits interstices entre les pierres de ce mur de lamentation. Voilà, à Jérusalem, c'est facile de prier, il y a une ambiance de prière. Au temps de Jésus, c'était similaire. L'ambiance de prière était là, c'est un peuple, les juifs, c'est un peuple qui prie, et les juifs non-croyants prient aussi. Les familles, il y a peut-être 80% des familles juives qui sont pas croyantes, soit à Genève ou ailleurs, ben voilà, ils prient quand même à Shabbat, quand ils font Shabbat, ils prient quand même quand il y a la Pâque, les fêtes familiales, comme ça. Ça prie, c'est un peuple qui prie. Au temps de Jésus, les hommes et les femmes prient, et c'est pas un problème de prier. Et du reste, lorsque Jésus fête sa dernière Pâque avec ses disciples, le texte nous dit dans Luc, je crois 22, qu'ils ont prié et ils ont chanté les psaumes. Donc c'est habituel pour les juifs. Mais voilà que Jésus arrive et il prie autrement. On dirait qu'il prie au-delà des prières toutes faites. Donc c'est vraiment basique ce que je vous dis ce soir. Peut-être vous vous dites, mais quand est-ce qu'il va décoller dans son message? Non, mais j'y vais. Parce que je rappelle ça, c'est vraiment important de dire, voilà, tout le monde sait prier en Israël. Jésus a appris à prier, les différentes prières, avant de manger, etc. Si vous écoutez les juifs, avant de boire un verre d'eau, les religieux, ils vont faire vite une prière. Voilà, béni sois-tu le Seigneur pour l'eau que tu nous donnes, un truc comme ça. C'est vite fait. À chaque fois. Voilà. Et la tendance d'avoir des prières toutes faites, le risque, pardon, c'est de les faire automatiquement. Quelque part, comme ça, voilà, on est couvert, on le fait automatiquement. C'est ce qui se passe aussi au temps du Seigneur Jésus et des apôtres. Voilà, le risque de faire des prières toutes faites automatiques, comme ça. Ceux qui étaient dans les religions traditionnelles, vous vous rappelez que peut-être vous avez appris des prières toutes faites. Moi, je me souviens encore. Il y a certaines que j'aimerais bien oublier, mais c'est tellement ancré en moi, c'est gravé. Et quand au ciel, j'espère ne plus m'en souvenir. Venir au ciel. Voilà, les « je vous salue », quelque chose, etc. Bref, je passe là-dessus. Les disciples voient Jésus qui prie, en train de prier. Ils se lèvent tôt le matin. Parfois, ils passent la nuit en prière. Avant le choix des disciples, ils prient toute la nuit, nuit blanche, pour en choisir 12, il va les appeler apôtres. Il les choisit pas au hasard, mais dans le secret de la prière, le Père Céleste lui montre qui il doit choisir. Ça montre qu'il ne savait pas avant qui fallait choisir. Mais dans les disciples qui commencent à le suivre, il en choisit 12. Et il fait pas une erreur en choisissant Judas. Il est choisi. On pourrait dire erreur de casting. Fallait plus prier. Non. Jésus a choisi Judas, c'est pas une erreur. Mais il se met à l'écoute de son Père Céleste. Et lorsque les apôtres voient cela, à un moment donné, je crois que c'est dans Marc 6, ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Les disciples de Jean-Baptiste, ils ont vu Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur a appris à prier aussi. Donc il y a la prière de base avec les prières toutes faites, puis le stade au-dessus, ou plus loin, cette prière comme Jésus la faisait. Et on a des petit passage, pas beaucoup, où il y a les prières de Jésus. Par exemple, avant le miracle de la résurrection de Lazare, Jésus lève les yeux au ciel, il dit « Père, je te loue, tu m'as déjà exaucé. » Donc voilà un extrait. Et dans ce petit extrait de Jean chapitre 11, d'une prière personnelle avec son Père, Jésus, on le voit très proche du Père Céleste. Ils sont un. Tout proche comme ça. Vous voyez, il y a la prière qu'on peut faire toute faite, vous récitez une prière, vous récitez un psaume, voilà, et ça vous fait du bien. Et puis il y a la prière vraiment du cœur, comme Jésus l'a fait, avant de ressusciter Lazare. Et c'est une prière tellement pleine de foi, il dit « Je te loue parce que tu m'as déjà exaucé, mais je te prie pas pour moi ou je te prie pas, voilà, je te prie pour eux qui vont voir la résurrection, qui soient témoins de ça. » Il est tellement dans la foi et la puissance de l'esprit qu'il fait ça grâce à la prière. Avant la multiplication des pains aussi, il lève les yeux au ciel, il fait pas la prière habituelle de sanctification du pain, mais il dit « Père, je te loue, voilà, nourris-les », ou les mots exacts, on a juste la phrase avant la prière. Il remercie pour le pain. Comment tu pries à table? Comment le disciple que tu es prie à table, si tu pries? Il y en a qui prient peut-être pas. Allez, je vous flanque un peu de culpabilité, là, religieuse. Non, mais franchement, quand on est en famille, puis qu'il y a les chrétiens autour de la table, on prie, vous êtes d'accord, hein? On remercie Dieu, etc. Comment on prie? On peut prier la prière toujours la même, qui est pas mauvaise, mais il y a peut-être une prière de l'esprit à faire monter à ce moment-là. Intéressant aussi, ou un chant, peut-être qui n'a jamais été écrit, là aussi. À voir. Je vous dis ça parce que je suis sûr que l'Esprit de Dieu veut ce soir renouveler notre amour de la prière, notre zèle pour lui. Parce qu'il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que dans la maison où tu vas, maison de Dieu, est-ce qu'il y a tes prières à toi voilà, tes prières. Si tu ne vas pas à la réunion de prière et que c'est une maison de prière, tes prières vont manquer. Elles seront pas là. Alors peut-être tu peux dire, ouais, mais il y a des frères et sœurs assez, il y a Abigail qui va prier, il y a Erika qui va prier. Oui, d'accord, mais rien ne peut remplacer tes prières à toi. Chacun amène ses prières qui sont un parfum de bonne odeur, qui monte vers le Seigneur et par sa grâce. Donc, le premier stade, les prières qu'on peut réciter. Le deuxième stade, les prières de, comme Jésus, les prières de foi, les prières d'intensité, les prières de communion avec le Père Céleste. À la maison, tu ne pries pas comme tu pries à l'église. Si, par exemple, maintenant, là, on dit, on va faire un temps de prière. Qui c'est qui veut prier à haute voix? Et si tu te mets à raconter ce qui s'est passé dans ta semaine écoulée, les autres, au bout d'un moment, ils vont dire, bon, voilà, tu nous informes de ta prière. Peut-être même le Seigneur va le dire. C'est gentil, mais j'étais avec toi cette semaine-là. Pourquoi tu me la racontes à nouveau? J'ai vu, on était là ensemble. Ça, c'est une prière ou c'est une annonce que tu fais aux autres. D'accord. Seigneur, je te remercie parce que j'ai pu faire mes courses. J'ai eu 10% de rabais sur les oranges. Merci à toi. Voilà. Alors, t'informes les autres peut-être qu'il y avait des actions des oranges à ton magasin préféré. Mais Dieu le sait déjà. Mais tu édifies pas les autres. Et la prière dans la maison de prière, elle est aussi là pour glorifier Dieu, mais aussi pour édifier tes frères et sœurs. Et alors le risque, ce serait de dire, bon, maintenant je vais faire une prière. Comme au temps de Jésus, les gens religieux, ils se levaient, les autres restaient assis au coin des rues ou n'importe où, ils prenaient une grosse voix, et puis ils essayaient d'avoir des éloges des autres. Ah, qu'est-ce que tu pries bien. J'aimerais tellement prier comme toi. Mais en fait, Dieu, il n'a pas entendu cette prière-là. Dieu n'a pas entendu cette prière. Il a entendu, je sais pas quoi, mais voilà. Il n'a pas été attentif, disons, à cette prière. Et la Bible nous dit que l'Éternel est attentif à la prière des justes. Lorsque tu pries avec ton cœur, tu pries en communion avec le Seigneur. Le Dieu de l'univers est attentif à ta prière. Et quelle est cette prière à laquelle il va être attentif? C'est quand on y met notre cœur et qu'on invite le Saint-Esprit à inspirer cette prière. Et elle peut être très courte, elle peut être très simple, mais quand elle est dans l'Esprit, ça change les choses autour de toi, tout simplement. Et Jésus, qui donc passait le temps dans la prière, avec son Père Céleste, la nuit, le matin, comme ça, eh bien, il était rempli dans ses journées du Saint-Esprit. Il savait les directives de son Père Céleste, il faisait les œuvres du Père, parce qu'il s'était rempli dans la prière des instructions du Père Céleste, il savait quoi faire dans sa journée. Et lorsque les disciples, à la fin de son temps de prière, ils viennent le voir, Ils lui disent, Jésus, il y a plein de foules qui t'attendent, il faut que tu les guérisses. Lui dit non, il faut que j'aille annoncer l'évangile dans les autres villages, dans les autres villes et villages où je suis pas encore allé. Donc il devait pas s'atteler là, il aurait pu être happé par les besoins des uns et des autres, tel aveugle, tel paralysé, telle femme qui avait des besoins. Non, il est allé, je vais annoncer l'évangile ailleurs. Il savait quoi faire. Et j'aime cette qualité que Jésus, il a de prière avec son Père Céleste, tout proche comme ça, tout proche. Tout disciple accompli sera comme son maître quand il prie. Jésus, apprends-nous à prier, apprends-moi à prier. Jésus leur donne une nouvelle prière, le Notre Père, et après, il montre comment il prie. C'est intéressant aussi, l'ultime prière de Jésus, qui a été écrite, enfin, une des dernières prières que Jésus a faites, c'est tout un chapitre, c'est Jean, chapitre 17. C'est la prière qu'on appelle sacerdotale, où Jésus prie, il prie pour qu'on soit un, il prie pour que les disciples soient unis, il prie pour ceux qui vont croire en lui, et prie pour qu'ils découvrent cette qualité aussi de prière, comme lui, il a avec son Père Céleste. Puis à un moment donné, il est saisi par l'angoisse, par la terreur, il dit « Waouh, je vais aller à la croix », il est saisi par ça, on imagine les pulsations cardiaques à 170, 180, 200, je sais pas. Il est saisi d'angoisse, il sait ce qu'il va mourir dans les heures qui suivent. Avant ça, il va être torturé, il va être humilié, il va être, voilà, au vu de tous, tout ça. Il est saisi par cette angoisse-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il a besoin de la prière de ses disciples, mais ses disciples sont endormis. Il les reproche, il dit, mais veillez, priez. Pourquoi vous priez pas? J'ai besoin de votre prière. Et ça, c'est un autre stade dans lequel j'aimerais nous emmener ce soir. C'est la prière où on peut faire à deux ou trois. Et Gilles nous a exhorté il y a quelques mois en arrière à faire ces prières à deux ou trois, ces groupes WhatsApp de prière. Pourquoi prier à deux ou trois? Tu peux être chez toi, prier, et tu pourrais dire, ah ben là, j'ai pas besoin d'église à quelque part. Ma famille spirituelle, c'est moi-même tout seul, je me suffis à moi-même. Je vais faire un Notre Père, je vais prier comme le pasteur il a dit, avec quelques prières où je déverse mon cœur devant Dieu, puis voilà, puis ça suffit. Mais Jésus, il nous dit, mais il y a dans les Écritures, il y a une fondation que j'ai faite, c'est l'épouse, mon épouse, qui est appelée une maison de prière. Et dans cette maison de prière, il y a des prières d'accord qu'on peut avoir, d'accord, où on se met d'accord. C'est dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, versets 19 et 20. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. » Je reprends. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. » Il y a une révélation, une clé dans ce texte extraordinaire pour l'Église. On peut se mettre par deux ou trois, le texte, Jésus le poursuit après, deux ou trois, on se met en accord et le Père Céleste est attentif et il accorde cette prière. En fait, quand on n'est pas dans une prière, dans une maison de prière pour prier, donc maison de prière, église locale, etc., c'est quand même un peu égoïste. Je veux pas faire de prière d'accord avec mes frères et sœurs. Voilà, je me suffis à moi-même dans la prière. Et on est dans un siècle qui est quand même drôlement individualiste. Et en tant que chrétien, l'individualisme peut nous guetter comme ça, en disant « je me suffis à moi-même dans la prière ». Mais lorsqu'on est avec un frère, une sœur, et on se met en accord dans la maison de prière, alors ça décuple cette puissance d'exaucement de prière. Tout à l'heure, dans la louange, je me suis dit, Saint-Esprit, on en est où spirituellement, là, dans la commune? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps de louange? Et puis j'entendais, il me semblait entendre la voix du Saint-Esprit qui disait, bah, t'as qu'à demander, qu'est-ce qui se passe? Alors je demande. Puis j'ai eu l'impression que nos louanges, elles libéraient vraiment la présence angélique dans ce lieu. Ces anges étaient vraiment présents là dans ce temps de louange, parce qu'on était en accord de prière dans la maison de prière. Et peut-être t'as juste fredonné un chant, Peut-être t'as pas tout chanté. Moi, j'ai pas tout chanté tout à l'heure, mais j'ai eu le sentiment vraiment que l'accord en esprit était là. Et je crois que ça libère l'efficacité et la présence angélique dans ce lieu. Et peut-être au-delà. En tout cas, je le souhaite. Se mettre en accord, il est dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, deux plus un, Jésus fait l'exaucement. C'était quoi, les équations, ouais, à l'école, je ne sais plus comment ça s'appelait. Non, il n'y a pas d'inconnu. Donc, deux, nous deux, sans Jésus, égale pas d'exaucement. Nous deux, ou toi et moi, avec quelqu'un, voilà, Jésus, en son nom, on est rassemblés, égale exaucement. Et deux ou trois, plus quatre aussi, plus un, ça fait quatre, avec Jésus qui est là, et c'est l'exaucement. Père, on a l'impression que Jésus, il prend la prière quand on est deux ou trois, et il la verse dans la coupe du Dieu Tout-Puissant, la coupe des prières des saints, et voilà, il les amène ça devant le trône, et ça manifeste ainsi sa gloire. Amen. Le stade suivant, c'est non seulement en accord en Église, mais je crois qu'il y a une dimension de prière et de bataille spirituelle dans laquelle il faut aussi rentrer pleinement. Donc, premier stade, les prières écrites, qu'on lit, d'accord? Deuxième stade, prière comme Jésus, de communion avec lui. On est rempli de foi, Dieu nous donne ses instructions, ses directives. Troisième stade, c'est la prière en accord. On se met ensemble, on fait un contrat oral, on dit « on va demander ça au Père Céleste ». Puis le quatrième stade, j'ai l'impression que c'est un peu, donc c'est pas forcément en supériorité, mais ça peut être voilà des stades différents de la prière, mais c'est une prière de combat spirituel où il est dit dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 12, J'ai fait tomber de l'eau sur ma Bible et les pages sont collées et ça s'ouvre moins bien. Ça m'embête. Je mets plus de temps à trouver, voilà. Éphésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, 6, 11, contre les manœuvres du diable. Et dans la liste, sans je m'y attarde pas, dans la liste des armes, il y en a une au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. On est dans une prière de combat, d'intensité, de foi, de discernement avec le Saint-Esprit, et nos yeux, là, ont besoin de s'ouvrir. Mais j'aimerais juste mettre un petit avertissement par rapport à cette prière de combat spirituel. On pourrait dire, voilà, on va lier tous les esprits qui sont à Genève, sur le canton, on le fait maintenant, c'est-à-dire qu'on neutralise le pouvoir de Satan, on le fait au nom de Jésus, etc. Il faut juste faire attention. Dans quelle sphère Dieu t'a placé? Peut-être que Dieu, il te dit, écoute, ça, c'est trop présomptueux pour toi. Laisse faire d'autres ou laisse faire des ministères spécifiques, des pasteurs ensemble, les cinq ministères ensemble, qui vont prier pour Genève. Puis toi, tu t'occupes de ta maison, de ton appartement, peut-être de tes voisins. Vous voyez la zone? C'est important, ça. Des fois, j'ai vu des prières qui étaient faites et je me suis dit intérieurement, ces personnes-là n'ont pas l'autorité de pouvoir le faire. Dieu ne leur a pas conféré ça. Par exemple, j'ai entendu une fois une prière comme ça. Sur le principe, j'étais 100% d'accord. Enfin, émotionnellement, j'étais 100% d'accord avec cette prière. Il y a une personne qui s'est humiliée devant Dieu pour tous les avortements qui étaient faits à Genève ou en Suisse. Et on peut que s'humilier devant ça parce qu'on sait combien la valeur de la vie pour Dieu. Voilà, c'est lui qui donne la vie, elle est tellement importante, c'est la valeur de la vie. Mais, dans mon cœur, voilà ce que je sentais, je me dis, mais cette personne-là, qui lui a donné l'autorité spirituelle pour non seulement s'humilier pour tous les avortements du canton de Genève, et en plus, faire en sorte que l'esprit de mort, parce que quand il y a des avortements, c'est un esprit de mort qui est là derrière, cet esprit de mort soit chassé. Si Dieu lui a conféré l'autorité, je dis amen à 100%, et je me réjouis que la vie vienne à la maternité, je me réjouis qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui fasse stopper tous ces avortements. Mais ces avortements, ils continuent. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que l'autorité spirituelle n'était pas conférée à cette personne. Son cœur y était. Elle était vraiment, contrit et triste qu'on pratique ça à Genève, on le sait, voilà. Voilà. Donc je pense que spirituellement, elle n'avait pas l'autorité pour le faire. Par contre, si l'autorité, ça c'est un exemple, voilà, qui était là, mais je pense que, et je m'appuie sur Matthieu 16 pour dire ça, quand Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, etc. Il a donné ça à Pierre, il a donné ça aux apôtres pour qu'ils étendent le royaume sur Jérusalem, en Samarie, en Judée, enfin avant la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre, il a confié ça aux apôtres, là, de cette époque-là. Quelle autorité Dieu nous donne spirituellement dans la prière de combat? Alors, je dis pas qu'il faut pas prier pour Genève de manière globale et tout ça, mais quand on prie ce genre de prière, on s'attaque spirituellement aux autorités face auxquelles on doit faire face avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Voilà, où est-ce qu'on est? Parce que sinon, on risque de tomber dans une autorité spirituelle que Dieu nous a pas donnée. Et ça fera un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Je dis pas que le diable va se venger en disant, mais toi, je te déguis parce que c'est pas ton autorité. Je pense que Dieu nous protège avec ça, dans notre inconscience ou notre insouciance. Mais faisons-le avec le discernement et les instructions du Saint-Esprit. Je crois qu'à l'équipe pastorale, le Seigneur confie l'autorité spirituelle pour cet endroit ici, pour cette région, et pas tout seul, avec les autres communautés de cette région. Je crois qu'il y a une autorité selon Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume, là, dans cette région ici, à ce moment-là. Par contre, l'intercession, qui est, tous on est appelés à faire de l'intercession, là, elle n'est pas seulement sur l'équipe pastorale de l'Église, mais elle est pour tous les croyants. On peut intercéder pour des personnes, des situations, tous et toutes. Et c'est même notre devoir de disciples accompli par rapport à ça. Dieu peut vous donner un discernement des choses spirituelles, on parle encore du monde invisible là, et il peut vous donner le discernement, mais c'est pas forcément à vous à faire la prière d'autorité. Et simplement, vous devez donner votre discernement, le déléguer à quelqu'un, une autorité spirituelle, il dit là, il me semble que j'ai vu ça. Alors, sur quoi je m'appuie par rapport à ça? Quand on voit le prophète Élisée, par exemple, lui, il avait l'autorité, alors je sais pas si c'était que les tribus du Nord ou tout Israël, je ne m'en rappelle plus exactement, mais quand il y a les Syriens qui vont attaquer Israël, il a l'autorité spirituelle et ses prières qu'il va faire ont une puissance, voilà, contre l'armée syrienne. Et il y a le pendant dans le monde invisible, l'armée spirituelle aussi, qui était contre Israël. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quel est le niveau spirituel là où t'as placé? Dans les Écritures, il y a 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. À ces 5 ministères, ou anciens, avec les anciens, Dieu confère une autorité locale sur le monde invisible, une autorité spirituelle et locale. On est d'accord avec ça? Oui, il confie pas ça à tout le monde, mais il confie localement cette autorité spirituelle. Et c'est eux qui vont pouvoir se tenir aux portes de l'Église et interdire à l'ennemi. Mais tous et toutes, non seulement on peut intercéder, on peut avoir un discernement, et c'est un don du Saint-Esprit qui nous montre la stratégie de Dieu, comment renverser l'adversaire de nos âmes. Amen. Et il faut aspirer à ces choses-là. Voilà, je pense que c'est un peu le stade ultime du combat spirituel par rapport à ça. Alors, je résume. Les prières écrites, on peut les faire, dire à Dieu avec notre cœur. L'autre stade, c'est imiter Jésus, comment il faisait pour prier. Il dépassait le stade du Notre Père et il priait avec son cœur, il priait en communion avec son Père Céleste, intimité. Il priait par l'Esprit aussi qui inspirait ses prières. Le troisième stade, c'est réaliser non seulement qu'on est une maison de prière qui fait monter les parfums à Dieu, mais qu'on peut se mettre en accord et être puissamment efficace dans la prière d'accord, prière de foi. Et puis le stade ultime, Éphésiens 6, c'est-à-dire on fait des prières d'autorité d'après ce que Dieu nous a donné. Et j'aimerais prier pour chacun, qu'on puisse comprendre là où tu en es, quelle est ta sphère d'influence spirituelle, là où tu dois prier. Peut-être c'est sur un pays, hein, je dis pas que c'est pas sur un pays, mais peut-être c'est, voilà, quelle est ta sphère d'autorité. Et là, prier, puis quand c'est comme ça, il faut aller à fond à ce niveau-là avec le discernement du Saint-Esprit.